Alors, on va dire quelques mots sur le prophète Jonas. Alors, si vous avez votre Bible, je vous encourage à l'ouvrir. Donc, partie 2, l'itinéraire du prophète Jonas par rapport à quand Dieu l'appelle et qu'il cherche à fuir la souffrance de la mission. Voilà, il cherche à fuir sa croix. Dans ma Bible, c'est page 730. Jonas, c'est un petit prophète. Alors Jonas, ça veut dire colombe. C'est intéressant de trouver sur Internet le sens des noms, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un nom, il y a une partie de la mission qui est contenue dans le nom. Et Jonas, c'est la petite colombe qu'on va envoyer à l'autre bout de la terre pour évangéliser une contrée impie. Voilà, c'est un peu ça, c'est va à Ninive, quoi. Et Jonas, il est fils d'Amittai. Et j'ai trouvé sur Amittai, Dieu est vérité, Dieu est fidélité. Donc c'est le cato, aujourd'hui c'est comme ça qu'on dirait, je pense. C'est un peu le cato qui a vécu bien comme il faut, et ses parents l'ont fait aller à la messe. Enfin, je suis un peu anachronique, mais donc il était connecté un peu au Seigneur, et puis il disait: Seigneur, éclaire-moi dans ma mission et aide-moi, etc. Voilà. D'après Jésus, c'est un prophète. Jésus dit le prophète Jonas. Il dit pas le personnage de légende Jonas, quoi. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui on entend parfois c'est un conte. En fait, il ne faut peut-être pas confondre. C'est raconté comme un conte, et il y a des choses merveilleuses dedans, effectivement. Mais Jésus dit bien le prophète Jonas. Et les Hébreux l'ont mis dans la Bible parmi les écrits des petits prophètes, quoi. C'est pas n'importe où, quoi. C'est pas au milieu de. Puis d'ailleurs, il n'y a pas de corpus biblique où il n'y a que des histoires drôles, on va dire. Voilà. Donc, le prophète Jonas. Il est envoyé en mission à cause de l'infidélité des ennemis d'Israël. Donc, la parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amittai: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et profère contre elle un oracle. Donc, ça veut dire prophétise, fais le prophète, parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu'à moi. Voilà. Dieu ne supporte pas que ses enfants s'éloignent de lui. Et comme il y a eu avec Pontmain ou avec plein de lieux d'apparition mariale en France, où la Vierge Marie est apparue pour colmater la brèche avant qu'il y ait un gros problème, une explosion ou je sais pas quoi, ou une guerre, et ben dans l'Ancien Testament, Dieu, qui pourtant a l'air souvent si cruel, on le voit là, si on décrypte un peu, comme un père aimant qui va prévenir un peuple avec une petite colombe toute chétive en la personne de Jonas. Ninive, donc. C'est un peu le lien, enfin c'est un peu le Ninive, c'est le lieu contraire, hein, voilà, pour nous, je l'ai dit la dernière fois, je crois, c'est un peu comme ce serait un pays arabe, voilà, en Arabie Saoudite par exemple, où les chrétiens se font persécuter, quoi. Va prophétiser là-bas, voilà, Ninive, c'est ça. Donc voilà, donc cet homme-là est en lien étroit avec Dieu. Mais il résiste à la grâce, parce que la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend un navire pour aller à Tarsis. Et Tarsis dans la Bible, ça veut dire Pétaouchnok dans notre langage moderne, vous m'excuserez l'expression, ça veut dire le plus loin possible, dans le trou du monde, là, à l'endroit où personne ne me retrouvera, quoi. Voilà. Et là, on peut penser au psaume 138 qui est dit: Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers, et même là, ta main me saisit, même là, voilà, je cherche à me cacher, je cherche à aller loin, je cherche à me réfugier dans mon, un peu dans mes activités, dans autre chose, et même là, Dieu me rejoint, et tempête, et lui, il dort, il fait exprès de s'endormir aux sollicitations du Seigneur, et c'est les autres marins qui ont plus de perspicacité que lui et qui disent: Mais l'un de nous a contristé les dieux. Et on retrouve le bon sens de nos frères athées, voilà, ou agnostiques, qui vont sur plein de choses nous dépasser par leur sainteté de vie, en quelque sorte, par leur connexion avec le bon sens, quoi. Et donc Jonas, il va finir par se rendre à l'évidence, ils vont tirer au sort, ça va être sûr, et il va dire: bah, jetez-moi par-dessus bord. Et les gars, ils vont dire: oh, bah, non, on va pas te jeter. Ils sont quand même sympas. Ils ne pensent pas qu'à eux. Et Jonas, donc voilà, et Dieu va lui donner un temps, parce que c'est un peu un acte de désespérance, hein, jetez-moi dans la mer. Et Dieu va lui donner un temps de réflexion pendant 3 jours dans le ventre d'un poisson, où il va sentir le poisson. Ça ne devait pas sentir super bon dans le ventre d'un poisson. Et puis après, bah, il arrive sur la plage, et Dieu lui dit: Allez, maintenant tu vas à Ninive. Et là, il y va, et puis ils se convertissent tous, quoi. Voilà. C'est radical. Là, il y a une porte ouverte. Et Dieu voulait l'envoyer lui, et il savait ce qu'il faisait. Avec un minimum d'énergie, je dirais, la seule énergie vraiment nécessaire pour Jonas, c'était de combattre ses propres craintes et ses propres réticences d'avoir à affronter des choses, d'avoir à souffrir, d'avoir à porter sa croix. Après, on connaît la fin de l'histoire où il s'assied sur une montagne à côté, enfin sur un lieu élevé, pour voir les météorites qui tombent sur. Parce qu'il se dit, bah voilà, maintenant que je leur ai dit, Dieu va les détruire, ça va se passer. Puis il attend. Et puis il commence à avoir un peu peur parce qu'il se dit, on va me prendre pour un dingue parce qu'il se passe rien finalement. Et c'est un peu frustrant quand on est envoyé pour dire quelque chose qui ne s'accomplit pas. Il y a un côté frustrant, je pense. Une belle destruction quoi, avec des météorites et des trucs. Bah non, et il se dit, bah finalement j'ai dit ce que Dieu avait à dire et finalement les gens peuvent très bien me dire, bah si ça se trouve il se serait jamais rien passé. Voilà, tu nous as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà, il y a ce côté-là un petit peu. Et donc il continue à résister, mais avec, sur d'autres il y a un combat un peu particulier. Voilà. Et donc ce qu'on peut lire dans le Nouveau Testament sur Jonas, il y a deux textes. Et qui sont pas, je trouve, forcément faciles à interpréter parce que il y a une clé dans chacun des deux textes. Il y a le premier qui est dans Luc 11:30. C'est Jésus qui dit de même que Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive. Alors les Ninivites se sont convertis. Luc 11:30. De même que Jonas fut un signe. Voilà, ils se sont convertis parce que c'est Jonas lui-même qui a été un signe. La mission de Jonas, c'était lui-même. Donc c'est un peu énigmatique. Et dans Matthieu 12:40. Matthieu 12, 40, on a de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Donc en fait, on comprend que le signe qui a converti les Ninivites, c'est le fait qu'ils soient restés 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Ce qui n'est pas forcément obvi, c'est pas très apparent quand on le lit. Donc en fait, Dieu s'est servi en quelque sorte de la résistance de Jonas et du fait qu'il faille le mettre dans un cachot sombre, dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Il s'en est servi comme témoignage pour les autres, en fait. Voilà.
C'est une légende
Ah bah après, on y croit, on n'y croit
aussi.
pas.
C'est une légende.
Non,
J'ai dit que c'était une légende.
voilà, en fait, c'est ce que je disais. Un certain nombre de personnes aujourd'hui disent c'est une légende. Après, moi, je dirais que c'est un peu
C'est pas infaillible.
l'interprétation quand on le lit. Je pense qu'il faut le lire et prier avec et dire Seigneur, qu'est-ce que t'en penses, toi? Voilà,
Non, parce qu'il veut nous dire quelque chose à travers ça, mais.
ouais, bien sûr. Moi, je pense que c'était vrai, mais c'est mon interprétation personnelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens qui disent Jésus n'a pas fait de miracle. Ou il y a des gens qui disent Marie n'a pas composé elle-même le Magnificat. Et voilà, il y a beaucoup d'interprétations aujourd'hui. Donc après, moi je pense que la meilleure solution, c'est de voir déjà que dit l'Église dessus, parce qu'en fait, c'est seulement certains théologiens qui disent ça. Et deuxièmement, de se mettre en prière en disant Seigneur, éclaire-moi. Et en général, il nous donne des réponses. C'est-à-dire qu'on a une vraie. Enfin, sur tous les textes, hein, je peux le témoigner. On a une vraie réponse dans notre vie de prière où on a une certitude intérieure suffisamment forte pour répondre à notre question. Voilà, quand c'est des questions en lien avec la parole de Dieu, quand c'est pas juste pour une curiosité malsaine, mais moi ça me paraît pas malsain dans notre monde d'aujourd'hui de se poser la question, est-ce que Jonas a bien vécu, etc. Enfin, la question c'est est-ce qu'ils auraient mis Jonas parmi les prophètes si c'était une légende? Ça veut dire que dans ce cas-là, on met Ulysse comme parmi les prophètes.
C'est
Enfin,
juste le truc du poisson,
mais non, mais
mais ça
peut-être,
peut dire.
peut-être. Après, je pense que ça dépend de la réponse.
Ça peut dire aussi qu'on a besoin quelquefois de se poser, de faire une retraite.
En fait, il y a une lecture symbolique toujours à travers ce qui nous est proposé dans la Bible, mais la réponse de est-ce que ça s'est produit comme ça, c'est la réponse de foi que chacun peut donner à la lecture. Je dirais qu'il n'y a pas, c'est pas quelque chose qui s'impose parce qu'il y a toujours des gens qui diront, bah non, je suis sûr que c'est pas vrai, et d'autres qui diront, je suis sûr que c'est vrai. Voilà, il y en a qui disent que Moïse n'a pas existé non plus. Enfin voilà, il y a plein de personnes qui peuvent aller loin dans la manière d'interpréter. Donc bon, après, c'est peut-être pas le plus. Voilà, mais c'est des questions. Alors après, on trouve dans Jean 1, 42, Jésus qui dit à Pierre, « Tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Pierre. » Et on avait vu, alors dans un autre passage que j'ai pas noté là, mais que quand on parle de Pierre, on dit Pierre, fils de, je sais plus comment, mais c'est son père, il s'appelle pas Jonas, quoi. Alors dans les traductions, certains ont mis Jonas, mais en fait c'est le même mot, c'est Jonas, voilà. Et donc, fils de Jonas. Quand on dit fils de, ça veut dire héritier spirituel de, ça veut dire toi qui es comme, voilà, fils de Jonas. Donc Jonas, c'est le prophète qui va fuir sa mission parce qu'il ne voit pas qu'il est un instrument choisi par Dieu avec une clé particulière, particulièrement puissante pour retourner tout un peuple et retarder de 2 siècles la destruction de Ninive, parce que Ninive a bien été détruite, mais 2 siècles après, un ou 2 siècles après, je ne sais plus, 150 ans peut-être. Tu es Simon, fils de Jonas, donc initialement tu es celui, alors Simon, j'ai oublié de regarder Simon, ce que ça veut dire, mais voilà, tu es en tout cas l'héritier, tu es bien l'héritier spirituel de celui qui... qui est parfois des progrès à faire dans le domaine de la foi, hein. Et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, etc. On a un autre endroit, heureux est-il, Simon, fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. On a notamment ça dans Jean 21, à partir du verset 15. Jean 21, à partir du verset 15, alors je vais le chercher parce que je ne l'ai pas noté. Voilà, Jean 21. Voilà, où Jésus lui pose la question 3 fois. Mais Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Vous voyez? Il l'appelle avec son ancien nom, c'est-à-dire toi qui es un peu au plus bas dans l'interprétation spirituelle, en quelque sorte, et toi qui es un petit peu encore trop terrestre avec ton ancien nom, m'aimes-tu? Et il lui demande 3 fois. Et puis à la fin, il lui dit, fils de Jonas, Pierre, il représente les 12 apôtres. C'est-à-dire que quand c'est lui qui prend la parole, en réalité, il se fait un peu le porte-parole de ce que pensent les 12 apôtres. Donc finalement, à travers Pierre, c'est un petit peu chaque membre de l'Église qui est concerné et qui est aussi qui rencontre des difficultés dans sa vie spirituelle et dans sa mission. Fils de Jonas, on doit le prendre pour nous, en fait. C'est ça que ça veut dire.